Beaucoup de personnes connaissent Johanna Messi. Je peux voir des mains pour voir qui connaît Johanna Messi. Voilà, donc je ne vais pas prendre trop de temps pour parler de Johanna Messi, mais je voulais quand même expliquer en quelques mots que voilà, c'est dès les années 70 que Johanna Messi a mis en place ses méthodes, a commencé à écrire ses livres et était une militante anti-nucléaire. Aujourd'hui, elle a 91 ans et elle allie vraiment l'alliance entre science et résilience intérieure, entre justement science et éducation à la transition, éducation à la transition intérieure. Elle est docteure en théorie des systèmes et elle est aussi bouddhiste engagée. Et donc, c'est un peu ma grand-mère parce que moi, je suis tombée dans la marmite de la militance active non violente et puis militance associative dès mon plus jeune âge. Et donc, voilà, je voulais lui envoyer ma gratitude et puis vous expliquer. Son message, c'est quoi? C'est de nous dire, tous les matins, elle nous propose de mettre les lunettes du changement de cap et de regarder autour de nous, comment est-ce que les stratégies de changement s'expriment dans le monde? Qu'est-ce qui existe? Pourquoi est-ce que c'est un temps extraordinaire pour être en vie? Et elle dit que ces changements-là, ils ne font pas les premières news, mais qu'en fait, on peut s'entraîner à les voir et on peut s'entraîner aussi à les faire se rencontrer. Et ça, je vous en parlerai après. Alors, elle nous parle d'abord de trois stratégies de changement, de trois stratégies qui existent aujourd'hui pour protéger la vie sur Terre. Et la première, c'est la résistance. La deuxième, c'est l'alternative. Et la troisième, c'est la prise de conscience. Je vais vous expliquer chacune d'entre elles. Et le plus important à dire, c'est qu'elles ne sont pas cloisonnées. Elles s'articulent entre elles, elles coexistent, elles se soutiennent. Et elles ont des liens en fait entre elles qui libèrent. La première donc, c'est la question de la résistance. Et on l'a représentée par le poing. Johanna, elle utilise aussi la main pour dire vraiment c'est toutes ces actions qui sont là et qui existent pour défendre la vie. On parle aussi de militance et d'activisme parce que c'est des activités qui sont vraiment destinées à ralentir la destruction de la vie sur Terre. C'est cette idée de stop. Assez, toutes sortes de formes de refus différentes pour dire on ralentit l'exploitation des sols, on stoppe la déforestation, on ralentit l'exploitation, en tout cas, on pose la question de l'exploitation des uns et des autres au centre du débat, etc. etc. Et c'est souvent soit par un travail politique, législatif ou judiciaire, je pense par exemple aux tribunaux contre les écocides. Et c'est aussi tout un travail autour d'actions directes dans l'espace public, avec les boycotts, aussi les pétitions, les marches, les grèves, etc., etc., qui en fait vont être très visibles et qui se voient davantage, qui vont faire parler d'elles. C'est la dimension aussi, la stratégie qui nous concerne ici, parce qu'on est avec XR, et XR, enfin, en tout cas moi, m'a marqué. Dans les années passées, où on sent qu'à côté d'XR, il y a aussi des marches pour le climat, la grève des femmes, tous ces mouvements-là qui vraiment, il y a aussi les rassemblements autour du droit à la culture avec HK et les saltimbanques dans l'espace public. Ce sont tous des manières d'exprimer vraiment cette idée de défendre la vie et de l'exprimer. C'est souvent des choses aussi qui sont créatives, qui sont festives, qui sont colorées, contrairement à ce que pas mal du discours médiatique voudrait en tout cas stigmatiser. C'est aussi un espace où il y a beaucoup de camaraderie, où on se serre les coudes, on se serre aussi en randonnion et on lâche rien. Et c'est aussi un espace où, moi je l'ai vécu, on peut vivre une violence, soit une violence de type symbolique, soit une violence de type physique, notamment avec des violences policières qu'on peut vivre. Et donc du coup, dans cet espace, il y a aussi un grand risque d'épuisement. C'est fatigant d'être dans l'opposition, c'est fatigant d'utiliser son corps, et il peut aussi y avoir des risques de traumatisme militant. Et du coup, je suis sûre que vous aurez sûrement des exemples d'hier ou d'aujourd'hui autour de tout ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour cette stratégie de changement, il faut aussi des oasis, des endroits où on peut aller se reposer, vivre concrètement en fait nos intentions de changement et notre volonté de changement. On peut aussi retourner dans ces oasis où on peut trouver du repos, du soutien, de la sécurité. Et donc, en fait, c'est là où vont aller, où moi, je vais vous parler ensuite des autres dimensions que sont l'alternative et la prise de conscience. Voilà. Donc, la prochaine, c'est l'alternative. Et là, Johanna, elle utilise comme signe c'est toutes ces idées incroyables qui émergent partout dans le monde comme des jets en fait, de lumière, des jets de printemps qui traversent en fait, la société de croissance industrielle pour proposer autre chose, qui se mettent aussi dans l'analyse des causes structurelles du comment en sommes-nous arrivés là et qui réfléchissent vraiment à des solutions concrètes de rechange avec toutes ces personnes qui font des choix pour participer à l'émergence d'une autre culture, d'une autre manière de faire, d'une autre manière d'apprendre, d'une autre manière de soigner, d'une autre manière de manger, d'une autre manière de mourir. Ça pose vraiment un regard critique. C'est un peu aussi les mains. Dans Rob Hopkins, il nous parle de la tête, le cœur, les mains, et souvent on dit c'est l'espace des mains, où on propose un autre modèle de société. C'est aussi un espace où il y a énormément de créativité. C'est un espace où on peut aussi observer aujourd'hui que cette stratégie de changement, elle est super puissante. Johanna, elle dit que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'il y a un mouvement pareil avec de plus en plus de gens qui se retrouvent autour de ces alternatives, qui sont touchés, qui essayent, qui expérimentent, qui s'inspirent les uns les autres. Donc, c'est aussi une manière pour moi ici de célébrer parce que ce n'est pas que facile. C'est tout ce qui est relocalisation alimentaire, les monnaies locales, les jardins permacoles, les systèmes d'échange, les éco-gestes individuels, les écoles alternatives. Toutes ces alternatives, en fait, on les retrouve notamment dans le mouvement de la transition qui a été créé par Rob Hopkins et plein de personnes autour de lui. Et c'est important pour nous aussi de dire que face à l'ampleur de cette tâche, l'alternative et la résistance, on sait aujourd'hui qu'elle ne va avoir de poids. Il va y avoir un changement radical uniquement si les deux premières dimensions, les deux premières stratégies, elles s'ancrent dans la troisième, qui est la prise de conscience. Sinon, on peut risquer d'être dans un greenwashing ambiant ou penser que cela suffit, en fait. Mais en fait, c'est vraiment en allant à la rencontre de cette dimension de la prise de conscience qu'on pourra voir ce changement radical s'exprimer. Pourquoi ? Parce que dans la prise de conscience, c'est tout ce qui concerne, en fait, les changements fondamentaux dans notre manière d'appréhender le monde et d'appréhender notre place comme humain et humaine et aussi notre rapport à nous-mêmes et puis aux autres qu'humains et au-delà, et de vraiment se mettre au travail, de prendre conscience, de connaître des révolutions intérieures autour de tout ça. Alors je me suis dit, comment je peux partager ça avec vous ? Ce serait par exemple pour moi, je me souviens lors de ma première formation de Travail qui relie, où on m'a dit, nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Waouh ! Ou alors, par exemple, prendre soin de moi, c'est prendre soin des autres. C'est vraiment l'espace aussi où on retrouve la transition intérieure, où on retrouve tout, donc comme Alexia l'a dit, les racines culturelles, psychologiques et spirituelles de cette défense pour la vie, et où on a ces révolutions et ces décolonisations de nos représentations au monde et de notre place de vivant et vivante. Alors, bien sûr, dans cette stratégie, on est soutenu par toutes les découvertes scientifiques, comme les théories de Gaïa, la théorie des systèmes, et aussi soutenu par les sagesses et les pratiques traditionnelles, anciennes, par le travail de l'éco-psychologie, de l'éco-spiritualité, etc. Et pour la conférence ce soir, c'est vraiment l'endroit où on va aller. Johanna dit mettre la main sur le cœur, on va aller rencontrer les émotions aussi, on va parler des épuisements, on va se faire soutenir par les éco-psychologues pour pouvoir adresser les questions de rage, de déni, de désenchantement que l'on peut vivre quand on est impliqué dans le changement. Du coup, ce qui est important à dire, c'est que cet endroit-là, la prise de conscience, ça n'est pas quelque chose qui est individuel uniquement. mais elle a pour visée le changement global pour toutes et tous. On va travailler sur les jeux, mais pour le nous et pour le nous tous. Et c'est prendre conscience de de ce système d'interreliance qui est fondamental pour que la transition continue. Ensuite, la quatrième dimension. Alors, la quatrième dimension, c'est ce qu'on a appelé en fait la résilience, ce qu'on a appelé aussi le fait des réseaux des tempêtes. Alors, c'est une dimension qui, bon, alors c'est pas vraiment un prime time, attention, on ne la connaissait pas. La résilience est au cœur évidemment de la transition. Mais ici, on a voulu mettre des mots sur ce qui était en train de se passer aujourd'hui, où on voit que une stratégie de changement, c'est vraiment de construire la résilience face à un système global mortifère qui est en train de s'effondrer et qui, en fait, nous fait traverser des chocs, des crises, des tensions, des effondrements, comme on l'a vu depuis 1 an et demi avec la crise Covid, et où on voit qu'en fait, en musclant notre capacité de résilience, soit collective, dans nos modes de vie, etc., soit dans notre résilience intérieure, dans notre capacité à traverser ces chocs, eh bien on peut comme ça soutenir la transition. Il y a aussi dans cet espace-là tout ce qui concerne une relocalisation rapide qui permet vraiment une autosuffisance. On a vu qu'il y avait beaucoup, en tout cas moi dans mon quartier, il y a eu beaucoup d'entraide avec des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, on va se réorganiser et on va se remettre en intelligence collective autour de ça. C'est aussi toute la notion du fait de danser dans l'incertitude et de s'autoriser à imaginer un avenir désirable. Donc, il y a tout le travail autour de l'imaginaire aussi qui se retrouve dans cette dimension-là. On voit, c'est très actif pour le moment tout autour de nous. Et enfin, pourquoi tempête et réseau des tempêtes? C'est parce qu'en fait, on voit qu'il y a une convergence de luttes. On voit qu'il y a une accélération en fait de ces lieux où on se rencontre. Je pense par exemple à Time to Breathe, au MOOC Transition Intérieure qui rassemble quand même 11 000 personnes dans le monde francophone, au travail de Terre Éveil, de XR au niveau international, etc. Et donc, c'est vraiment un espace à co-construire et voir comment ça va continuer. Je pense qu'il me reste que quelques minutes. Alexia, tu confirmes? Tu pourrais me dire combien de temps il me reste?
Encore 4 minutes.
4 minutes, ok. Donc, l'intention ici, c'est vraiment de vous présenter ça en disant donc il y a de la résistance, ok, assez. Il y a des alternatives. Tous ces choix et ces créativités et cet esprit critique pour proposer une autre manière de vivre, une autre manière de faire ensemble. Et puis, il y a la prise de conscience qui est vraiment de retourner à notre rapport culturel, spirituel et psychologique à la vie et au monde. Et puis, la résilience et le réseau des tempêtes où vraiment on va muscler notre capacité à traverser les chocs, les crises, les effondrements. Et de manière collective. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas les cloisonner, comme Alexia l'a déjà dit, puis moi, je veux le rappeler, et dire à quel point c'est vraiment important de se dire, je suis sûre que d'ailleurs, vous le vivez aussi, vous êtes sûrement déjà allé dans l'un, dans l'une, dans l'autre, et on y retourne. Et je voulais juste vous expliquer, moi, ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai d'abord été dans la résistance, le choc de découvrir que des sans-papiers devaient dormir dehors avec moins 6 à Bruxelles. J'ai utilisé mon corps pour faire des occupations. Et ensuite, j'ai eu un traumatisme militant, j'ai eu un épuisement. Et j'ai rencontré, grâce à ce qui se vivait plutôt au niveau des espaces d'alternative et prise de conscience, le mouvement de la transition, le mouvement de la transition intérieure, le travail qui relie. Et j'ai alors plutôt été dans une militance pour soutenir les alternatives, pour soutenir l'émergence d'une association. Et ce qui est important aujourd'hui, enfin moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui me tient à distance de la résistance? Qu'est-ce qui me tient à distance d'aller explorer la transition intérieure dans l'espace prise de conscience? Qu'est-ce qui me tient à distance peut-être d'aller vers cette convergence des luttes ou de travailler plus la résilience ou les alternatives? Et de se poser ces questions-là, de jouer un peu et de voir, tiens, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça nous dit sur le mouvement, parce que l'intention évidemment c'est qu'il y ait de plus en plus d'espaces où on puisse se rencontrer comme ça et faire du lien et de se rendre compte surtout. qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne doit pas tout faire en même temps et que donc on peut aussi regarder ça en se disant bah, génial, il y en a d'autres qui font ça ailleurs, on ne peut même pas s'imaginer tout ce qui existe aujourd'hui et évaluer. Et comme Johanna dit, it's an amazing time to be alive, donc c'est vraiment un moment incroyable pour pouvoir participer à ça et pour pouvoir le célébrer. Clairement, ce n'est pas facile, ce n'est pas tout rose, mais c'est aussi merveilleux. Et voilà, avec l'équipe, on voulait aussi célébrer ça. Et je voulais enfin dire que ce qui était pour nous important aussi, c'était d'être très bienveillant avec soi-même, avec la possibilité aussi de faire des pauses et de se laisser inviter par notre désir profond d'aller vers ce qui est juste pour nous et de quitter un peu cette posture de comment ça s'appelle de celui avec son sabre là qui se j'ai oublié, samouraï, voilà c'est ça, le samouraï, et de voilà de d'être bienveillant dans la découverte de ces stratégies de changement. Voilà, j'ai dit, et puis je me réjouis de répondre à vos questions et de continuer avec vous. Je passe la parole à Alexia.
Merci Noémie pour ton partage. Du coup, on va directement passer la parole à Vincent. Si tu es toujours là, Vincent.
Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez ?
Oui.
Trop bien. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez ?
Ouais.
Trop bien. Il est en plein écran ?
Oui.
OK. Alors, bah, déjà, merci à Noémie pour sa présentation. Donc là, vous avez un peu l'introduction pour vous montrer un peu avec XR qu'est-ce qu'on va explorer très succinctement. Et on peut démarrer tout de suite. Donc, avec Extinction Rébellion, il y a aussi en quelque sorte trois cercles qui sont tous aussi importants les uns que les autres et qui ensemble forment ce qu'on appelle l'ADN un peu d'XR. Et son origine vient déjà comme inspiration de Gandhi avec sa stratégie de transformation sociale par la non-violence, où il y a l'idée de d'une transformation intérieure, volonté de sacrifice, de remise en question de soi, l'idée aussi de soulèvement communautaire et de réinventer des structures sociales pour ressentir le lien ensemble et l'action politique. Il y a comme deuxième inspiration, il y a justement la théorie de Johanna Macy qui a été déjà présentée, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et pour Extinction Rébellion, je vais commencer par le cercle des cultures régénératrices. Elles sont au pluriel, mais on verra avec Séverine tout à l'heure pourquoi, qui rentrera plus dans le détail de cet élément du mouvement Extinction Rébellion. Et donc, c'est vraiment l'idée, très succinctement, de travailler sur soi, d'aller vers une transition, je sens, vers des cultures régénératrices pour prendre soin de soi, de la communauté et de la nature. Et l'idée, c'est que bah, critiquer le système et dire qu'il est toxique, c'est important, mais il faut aussi créer et expérimenter d'autres manières de vivre. Et pour moi, c'est déjà une forme de militance, rien que d'aller dans ce sens-là. Ensuite, l'action politique et les revendications. Donc, pour Extinction Rébellion, c'est impératif qu'elle soit non violente, les actions directes qu'on fait dans la rue. C'est plus une question stratégique qu'une question de valeur fondamentale, parce qu'il y a vraiment cette idée que les bases théoriques sur lesquelles le mouvement se repose. Il y a cette idée que si on utilise la violence, ben le changement, quand il va se mettre en place, il va forcément aussi recréer des violences. Et on a notamment un risque vraiment dans l'extrême d'aller vers de la guerre civile, par exemple. Et aussi, c'est plus inclusif d'être dans la non-violence parce que des personnes de tout âge, même des enfants, peuvent venir. Voilà. C'est vraiment la partie où on va être en fait en confrontation et on va chercher à mettre la pression sur les élus, voire les entreprises aussi, pour forcer les changements en fait de direction et défendre nos droits. Je dirais aussi nourrir la démocratie, qui qui tient grâce à plein d'éléments différents et qui sera forcément, enfin qui risque fortement d'être remise en question avec les crises qu'on va vivre dans les prochaines décennies si on ne change pas de cap notamment, et notamment pas assez vite. Donc l'idée notamment avec le mouvement et ses actions directes, c'est d'imposer le sujet. On va le voir avec la fenêtre d'Overton après, mais c'est pas d'imposer les décisions et les solutions à apporter. C'est vraiment mettre au centre le sujet de l'urgence climatique et même écologique, c'est plus vaste que le climat. Ça peut être des moments de stress, et donc la bienveillance entre les militants, militantes et le soutien mutuel est vraiment indispensable pour devenir plus fort et peut voir aussi se permettre de passer des bons moments, parce que c'est aussi autorisé en action, et on peut même être joyeux selon comment on va militer. On le verra avec quelques exemples après. Il y a plusieurs façons aussi de passer à l'action, justement, sans que cela représente forcément un risque d'être... de devoir se faire arrêter, de finir en prison, et ou que ça représente un danger en fait aussi. C'est vraiment dans l'idée de la rébellion que prône Extinction Rébellion, c'est qu'au sein de chaque groupe, on décide du type d'action qu'on a envie de faire et auquel on a envie de participer en tant que personne, individu. Et évidemment, l'intelligence collective est toujours la bienvenue pour trouver les meilleures idées et peser, on va dire, aussi les actions qu'on va proposer ensuite dans la rue avant de les mener. L'autre cercle, donc le système d'auto-organisation, il y a vraiment cette idée que le mouvement, du coup, un de ses principes, c'est la décentralisation et l'autonomie. Donc, ce n'est pas parce que le mouvement est né au Royaume-Uni que... dans tous les groupes locaux, on travaille exactement de la même manière et qu'on pense la même chose. Et du coup, il y a notamment des mandats, par exemple, qui sont limités dans le temps pour éviter que des personnes prennent trop de pouvoir en tenant un rôle. Ça permet notamment de réduire les rapports de pouvoir, donc d'augmenter la bienveillance au sein du groupe. Ainsi, tout le monde peut se sentir aussi plus à l'aise et osera dire et faire plus qu'il ou elle ne pouvait le penser. Cela nous amène aussi à créer de la confiance en avançant ensemble. On se sent soutenu et donc on ose expérimenter, se tromper. C'est un autre principe, c'est vraiment on s'en fiche, on essaye et puis après on évalue qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, comment on peut améliorer, etc. Et ça pousse l'énergie du groupe pour que ça devienne vraiment un moteur pour continuer à avancer. Notamment par la coopération, et ce qui est génial avec la coopération, c'est qu'on travaille avec les gens et pas contre, et donc ça a vraiment l'avantage aussi d'essayer de limiter la culpabilité qu'on pourrait ressentir si d'un coup on a l'impression de ne pas faire les choses ou de ne pas être à la hauteur, ce qui peut arriver si on se met des défis trop hauts, et notamment développer, comme j'ai dit déjà, l'intelligence collective et surtout oser se remettre en question, ce qui est fondamental pour ne pas partir dans un dogme et foncer tout droit sans voir qu'on pourrait avoir prendre un autre chemin. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas magique, et il ne suffit pas juste de dire qu'on a un système auto-organisé pour que ça le devienne, et que tout fonctionne, et que les systèmes de domination qui sont ancrés en nous, et l'idée aussi de rentrer en compétition disparaissent. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler constamment. C'est notamment pour ça que le mouvement a des conférences, des ateliers sur différents thèmes et sujets pour essayer de donner des outils et puis ensuite l'appliquer dans nos réunions, pendant nos actions, mais c'est aussi dans le reste, dans le quotidien en fait de nos vies, pour essayer aussi d'influencer autour de soi. L'autonomie, elle permet aussi au groupe de, je sens comme j'ai déjà dit, de s'approprier la rébellion et de faire vivre, de la faire vivre sous de multiples formes. Ce que j'ai envie de pointer, c'est que c'est vraiment essentiel de ne pas voir ces cercles comme des trucs séparés. Ils sont vraiment connectés et selon les moments ou notre état personnel, on ne sera pas forcément aussi impliqué dans l'un ou dans l'autre, c'est pas grave. L'idée, c'est si on en est conscient, ça peut être bien, surtout si tout d'un coup on a envie, je sais pas, d'être le plus centré par rapport à tout ça. Bah, se dire, ah ben là, peut-être que je suis trop dans l'action, il faudrait que je prenne un peu plus soin de moi. Comment est-ce que je peux faire? Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment un peu. Enfin, pour moi, la culture régénératrice fait pas. Enfin, ces systèmes d'auto-organisation sont une manière aussi de créer cette culture régénératrice et de rendre, ouais, de pousser nos actions politiques, et puis tous les trois s'imbriquent et se poussent les uns avec les autres. Des exemples concrets, on va passer dans des différents exemples d'actions de désobéissance civile notamment. Et donc là, à gauche, vous avez une image de membres d'Extinction Rebellion Ouganda qui sont allés dans une école pour apprendre aux enfants à planter justement des végétaux et pour leur transmettre des graines et des plantons pour qu'ils puissent après le faire chez eux. Donc là, c'est l'aspect prendre soin de la nature et de la régénérer. À droite, c'est plutôt créer des pistes cyclables parce qu'il y a un manque dans... Il y a un manque dans la communauté, et donc là on prend soin des cyclistes directement, mais même si ça pousse des gens à faire plus de vélo ou à prendre le vélo, lâcher la voiture, etc., ça peut avoir aussi des influences au-delà de la communauté, on va dire, cycliste. Et c'est toujours dans cette idée de ok, c'est pas légal, mais on essaie de prendre soin des autres tout de même. Donc c'est un exemple notamment de prise et d'appropriation de la rue. Là, on en a un autre. C'est le fait de prendre la rue. Ça peut être en bloquant ou en défilant. Et là, ça va être plus pour revendiquer vraiment les revendications du mouvement qu'on abordera tout à l'heure et mettre un grain de sable dans la machine du train-train quotidien dont on est tous des rouages. Pour justement dire ok, peut-être vous ne le voyez pas là tout de suite dans votre quotidien que c'est la merde, mais on est là pour que ça devienne un peu plus concret avant que les conséquences le soient réellement pour vous. Et c'est aussi très important, pas juste pour faire ce blocage, mais surtout pour se réapproprier la rue et la transformer, peut-être faire des espaces de discussion, d'activités artistiques, des concerts, des discours, etc., pour utiliser autrement la rue, en fait, que juste comme un moyen de se déplacer. Un autre exemple encore, c'est l'hommage qu'on peut rendre. Là, c'est des personnes, c'est en Amérique latine, en fait, où ils rendent hommage à des activistes du climat qui ont été assassinés. Ça peut être aussi visuel, donc vraiment utiliser l'art, être hors de la ville même. Là, ça va être plutôt pour travailler sur l'imaginaire des gens et toucher un public qui ne serait pas sensibilisé par rapport à un blocage de route, par exemple. D'autres exemples, à droite, un masque à oxygène low cost, en quelque sorte. Là aussi, c'est pour justement ouvrir des perspectives, faire réfléchir. Et en haut à gauche, c'était à Lausanne, pendant la grève des femmes, je crois, en 2019. C'était peut-être 2020, je ne sais plus. C'est aussi pour dire que nos luttes sont, justement, faut les lier en quelque sorte et qu'on soutient les autres luttes. Là, ça peut être... je vais vous laisser quelques temps pour que vous puissiez les lire. Là, l'idée, c'est je vous ai partagé quelques affiches du collectif Street Art Rebellion qui, je trouve, ça, c'est trois affiches que je trouve très inspirantes et qui me parlent beaucoup. Il y en a une vingtaine, une trentaine d'autres. Et là aussi, c'est une autre manière d'occuper la rue et de passer un message et d'ouvrir les perspectives potentiellement aussi des gens qui passent. Au final, pourquoi tout ça? Pourquoi des blocages? Pourquoi occuper la rue? Pourquoi faire de l'affichage? Je vais me présenter la fenêtre d'Overton, du coup. Et avant ça, je vais juste vous lire une citation de Martin Luther King qui résume pourquoi, au final, faire de l'action directe non violente. Donc, l'action directe non violente cherche à créer une telle crise et à créer une telle tension créative qu'une communauté qui a toujours refusé de négocier est obligée de faire face au problème. Et je trouve que ça résume assez bien cette fenêtre d'Overton qu'on essaie de faire bouger à Extinction Rébellion. Donc, nos actions dans la rue, c'est vraiment que cette petite fenêtre où il y a les choses acceptables, donc au centre, c'est vraiment le politiquement correct, plus sur l'extrémité du cadre, ça va être ce qui est largement accepté et compris par la population. Et dès qu'on sort de ce cadre, et plus on va loin, et plus on sera considéré comme extrême, comme un discours qui n'est pas entendable, etc. Et donc, par nos actions, on cherche à faire en sorte que le thème de la menace existentielle pour notre espèce que représente l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique pèse et qu'elle soit plus considérée comme extrême de dire que notre espèce est menacée et qu'il faut agir vraiment de manière rapide et radicale, mais qu'elle se rapproche de ce centre de la fenêtre d'Overton. On peut voir déjà avec les grèves du climat, les marches, notamment on était 100 000 à Berne, qui était une première pour la Suisse, 100 000 personnes au même endroit en 2018. On voit que même le Parti des Verts, qui en tout cas de ce que j'ai suivi avant 2018, je les avais jamais entendus parler de neutralité carbone, même pas mettre une deadline. Et depuis ces marches, les actions d'Extinction Rébellion, l'année passée, enfin je crois que c'était pas en 2020, oui, ils ont annoncé proposer comme objectif neutralité carbone pour 2030 en Suisse, et qu'en 2040 la Suisse soit à émission négative, donc ça voudrait dire qu'elle absorbe plus de CO2 que ce qu'elle en émet. Donc on voit qu'il y a quand même un changement de discours assez radical. Après, ça reste le parti des Verts, donc les autres partis commencent à en parler, mais ça reste très vague. Donc c'est un petit pas, mais on voit qu'on avance. Pour moi, un point aussi important, c'est que la résistance et la résilience, pour moi, c'est vraiment des alliés. Le premier, il va permettre de faire accélérer l'acceptation des choses et de faire bouger les consciences par la présence notamment de discours dans la rue, au contact direct avec des populations qui sont pas forcément à suivre les médias ou dans leur quotidien n'ont pas le temps de penser au climat, à l'urgence, etc. Et ça permet, c'est aussi d'essayer de faire rendre plus facile les solutions, les propositions de changement. Puis le deuxième, du coup, cet aspect résilience permet de construire l'alternative, de toucher d'autres publics. Et souhaite aussi, permet aussi à d'autres personnes de s'engager d'une autre manière et de créer, expérimenter, comme j'ai déjà dit, d'autres manières de vivre. J'ai presque fini. Après, je laisserai la parole à Séverine pour la culture régénératrice. Je vais continuer avec juste cette slide. C'est les trois revendications du mouvement en Suisse, à savoir que dans chaque contexte, chaque pays, elles sont adaptées. Elles ne sont pas exactement les mêmes. La colonne vertébrale du dire la vérité de la part de l'État et des médias pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience massive, objectif clair avec par exemple, l'émission réduite à 2025 de carbone en Suisse et des contraintes pour éviter qu'on fasse du colonialisme vert ou une dictature verte en imposant des choses qui ne sont pas supportables pour les populations les plus précaires ou les espèces les plus précaires. Et comment on arrive à cela? En renforçant la démocratie avec notamment des assemblées citoyennes locales, cantonales, nationales, voire internationales, fondées sur vraiment des assemblées en fait, où des gens seraient tirés au sort avec des critères pour que le plus grand panel représentatif puisse exister par rapport à la population qui est accueillie par exemple en Suisse. Pour nos amis français, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui était basée là-dessus, et puis Macron l'a torpillé en ne respectant pas ses engagements. Mais voilà, vous trouvez des infos, je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, vous trouvez des infos sur Internet si jamais. Et donc, je laisse la parole à Séverine. Et je serai disponible aussi pour les questions après, et je me réjouis.
Merci Vincent. Je rebondis peut-être juste ce que tu as dit par rapport aux revendications, aux trois revendications d'Extinction Rébellion pour commencer, puis après je parlerai de la culture régénératrice. J'en profite parce que ça, pour moi ça fait écho à ce que disait Noémie tout à l'heure par rapport à ces trois axes, résistance, alternative et prise de conscience. Pour moi, la première revendication d'Extinction Rébellion, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire il faut informer, il faut mieux informer sur l'urgence actuelle. Et puis la deuxième, c'est la résistance. La résistance dans le sens où maintenant il va falloir se battre un peu. On va tous devoir se battre pour réduire nos émissions de CO2. Hein. Même pour nous, c'est, on est très motivés, mais ça va pas être toujours facile. Hein. Et puis la troisième, je trouve qu'on peut l'associer à la notion d'alternative dans le sens où les assemblées citoyennes, c'est vraiment quelque chose d'horizontal et de très démocratique et de représentatif de notre société. Donc, y a plus de... on casse cette dynamique de verticalité et de patriarcat, etc. Enfin, de capitalisme. L'idée, c'est de proposer une alternative. Voilà. Et ça amène du coup au thème de la culture régénératrice hein, dont je vais parler. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un terme un peu particulier. Au début, moi, quand je suis arrivée à Extinction Rébellion, je me disais, mais c'est quoi cette histoire de culture régénératrice? J'avais un peu de peine avec cette terminologie. Et disons, on peut partir, pour la comprendre, hein, on peut partir de la notion de société dégénératrice. Je pense que ici, nous tous et toutes, on est assez d'accord avec l'idée qu'on est dans une société qui est assez dégénératrice de par la surconsommation, la destruction de notre environnement, la création de l'obsolescence programmée, la fabrique de l'ignorance. Il y a quand même beaucoup d'aspects de notre société qui sont destructeurs et dégénérateurs. Et l'idée de la culture régénératrice, c'est de plutôt que de proposer décroissance et quelque chose qui peut sonner négatif, c'est de proposer plutôt régénérer notre capacité à être en lien avec la nature, à être en lien les uns avec les autres, et la résilience dont parlait Noémie, qui est notre adaptabilité, en fait, aux crises. Donc voilà, la culture régénératrice à Extinction Rébellion, c'est vraiment l'alternative à notre société dégénératrice. Et non seulement pour prendre soin, alors elle a plusieurs rôles, hein, prendre soin des militants, parce que comme l'a bien décrit Noémie, y a quand même pas mal de burn-out, ne serait-ce que par la prise de conscience de la situation qui est très anxiogène. Ensuite, proposer autre chose et pas seulement condamner le système dans lequel on est, mais proposer autre chose. Et puis, c'est nécessaire pour être dans l'action et pour recruter que chaque personne soit le plus en harmonie possible avec soi-même pour que le recrutement marche et que l'action soit positive et perçue positivement par la population. Donc la culture régénératrice, elle est indispensable, elle est un des piliers d'Extinction Rébellion. Elle a plusieurs rôles. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans la culture régénératrice? Alors il y a plein de choses, je ne connais sûrement pas tout. Moi, j'ai découvert tout ça avec Extinction Rebellion, avec grand plaisir. Donc, sur le moment des actions, il y a les anges gardiens qui sont là pour prendre soin des personnes qui sont dans l'action. Donc, chaque personne, par exemple, bloqueur, bloqueuse, a une ange gardienne ou un ange gardien qui prend soin de est-ce qu'elle a chaud, est-ce qu'elle a froid, est-ce qu'elle a la crème solaire, est-ce qu'il lui faut, enfin voilà, psychologiquement aussi, est-ce que ça va. Avant les actions, après les actions, il y a le briefing, le débriefing, qui sont des moments d'ancrage, des moments pour se mettre en lien avec ses propres émotions et pour travailler sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment faire mieux la prochaine fois, etc. Il y a les cercles d'empathie qui sont importants pour se connecter à ses émotions et pour apprendre. C'est vraiment nécessaire qu'on apprenne à s'écouter, à écouter les autres, à écouter ceux qui nous condamnent, toutes les personnes qui peuvent être agressives pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe chez l'autre et pour se régénérer. Et puis, ben, le travail qui relie de Johanna Macy, on l'utilise beaucoup aussi. On fait des ateliers de travail qui relie, c'est-à-dire se relier à la nature, se relier les uns aux autres. Pour éviter le déni. Le déni menace tout le monde, y compris les militants les plus convaincus. C'est-à-dire quand c'est trop, quand tout d'un coup, on a l'impression que notre vie n'a plus de sens et que faire nos factures à la fin du mois, ça paraît complètement idiot. Ben, voilà, il faut, on a tendance à tomber dans le déni, se dire non, ou à éviter, dans l'évitement. Je peux plus, c'est trop, j'arrive plus à fonctionner, j'ai plus assez de temps pour ma famille. Voilà, l'idée de cette culture régénératrice, c'est d'éviter le déni, l'évitement, pour être plus actif au sein d'Extinction Rebellion. Est-ce que, Vincent, je ne sais pas si tu as la slide avec la courbe du deuil, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Si j'ai encore le temps, j'ai encore un petit moment pour ça ou...
Oui, prends encore 2-3 minutes et puis on s'arrangera après.
Oui, donc voilà la courbe du deuil. Pour rendre les choses moins horribles, il y a des petits dessins humoristiques et l'humour est très très important pour la résilience. Donc voilà, le processus de deuil, il y a Elisabeth Kübler-Ross qui était une psychiatre suisse hein, qui a développé les stades de deuil qu'on connaît tous maintenant, avec lesquels on travaille pas mal face à la mort, mais face à l'extinction de l'humanité et de la vie sur Terre, évidemment qu'on peut vivre aussi ce qu'on appelle des deuils anticipatoires. On peut vivre aussi des sentiments de, ça c'est un mot que j'utilise moi, je ne sais pas si ça existe dans la langue française, d'impermanence perpétuelle, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on se dit mais peut-être que ça ne va plus être possible, peut-être que ça ne va pas pouvoir durer, et ça crée une anxiété chronique, un fond anxieux, une éco-anxiété qui peut être pénible à vivre. Et on peut passer alors par toutes sortes de stades émotionnels différents. Alors, le premier stade, c'est quoi ? C'est à ce point-là urgent ? Quelle horreur ! Donc, ça peut être la sidération, le choc. Certaines personnes sont dans le déni à ce moment-là aussi. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir oui, mais bon, on va y arriver avec la technologie, on va trouver des trucs, des négociations. Ça, c'est le stade de marchandage qu'avait bien décrit Kübler-Ross. Et puis, à un moment donné, on se dit bah oui, non, la situation elle est vraiment mauvaise. Là, on peut être dans un état dépressif, mais à ce moment-là, on peut aussi, et puis on peut faire des allers-retours entre tous ces états, hein, forcément, ce n'est pas linéaire du tout. On peut aussi, Johanna Macy utilise la notion de honorer nos peines pour le monde. En honorant nos peines pour le monde, en les exprimant, en les accueillant et en les acceptant, parce qu'elles ont un fondement, elles sont réelles, et en acceptant les émotions qui viennent avec. Si on en a les moyens, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, hein. Il y en a pour lesquels ce n'est pas possible, c'est à respecter aussi. On peut ensuite entrer dans un stade de résilience et de passer, donc du coup pouvoir agir, du coup pouvoir faire des choses en communauté et accéder aussi à cette notion que autant l'exponentielle, c'est hyper anxiogène au niveau du Covid, du climat, tout ça, de savoir que les choses vont nous arriver dessus et qu'on va être face au mur beaucoup plus vite que prévu, c'est très anxiogène, mais les mouvements collectifs que nous représentons peuvent aussi agir en courbe exponentielle et qu'il suffit parfois d'une lame de fond comme on sent qu'il y a maintenant et de se serrer les coudes les uns les autres pour pouvoir trouver des solutions malgré les difficultés. Donc voilà, là, bon, à la fin, c'est waouh, c'est peut-être un peu... voilà, dans le moment des actions, quand on vit d'être dans le réel, de savoir, d'être ensemble, de savoir quelle est la situation et comment fonctionne notre société, tout ce qui ne va pas, mais de pouvoir se tenir les coudes et de pouvoir vivre avec intensément des moments où on a l'impression d'agir et de pouvoir être utile, c'est quelque chose qui peut amener un sentiment même de plénitude, de sérénité et de bonheur une fois qu'on a pu passer par tous ces stades. Donc, c'est ça, c'est tout ce travail qui est à faire et à reconnaître, se connecter à... Bon, moi, je suis psychiatre, évidemment, donc je travaille avec ça, mais se connecter avec ce qu'on ressent. Et les cercles d'empathie, je trouve que c'est un moyen absolument magnifique pour rester en contact. Donc, juste quelques mots, peut-être, si j'ai encore le temps, pour décrire ce que c'est en quelques mots. C'est une technique d'écoute active et ça permet à chaque personne de pouvoir s'exprimer. C'est très démocratique parce que chacun a le même temps et ça permet d'entraîner l'écoute. Et à travers l'empathie de la personne qui nous écoute et du groupe qui est dans l'écoute passive, de diminuer énormément la charge émotionnelle. Ça permet aussi de régler des conflits, ça permet d'être plus résilient, quoi, vraiment. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, mais je suis prête aussi pour des questions plus tard, si jamais. Merci pour votre écoute.
Oh ben merci beaucoup à vous trois, Noémie, Vincent et Séverine, pour vos apports très riches qui, je pense, sont très nourrissants pour toutes les formes d'engagement qu'on peut avoir chez nous ce soir et dans la vie. Je ne sais pas si tu arrives à couper ton partage d'écran, Vincent, pour qu'on puisse se voir toutes et tous à nouveau. Super, merci beaucoup. Donc, on a un peu de retard, donc on ne va pas trop traîner, mais on va quand même laisser une place pour les échanges et les questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne 2-3 maximum questions, à moins qu'elles soient hyper rapides, on pourra en prendre plus. Et puis pour ça, donc, c'est vraiment de vous inviter, donc on va vous laisser vraiment vous la parole. Donc si vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole vous-même. Mais vraiment vous inviter, si c'est possible, et ce sera possible, à être très concis, aller droit au but pour vraiment voilà, laisser la place aussi à d'autres personnes qui puissent aussi poser leurs questions. Donc là, voilà, on a maintenant grosso modo une grosse dizaine de minutes pour poser vos questions. Au centre, si vous le souhaitez. Et pour ça, je vous invite à ouvrir votre micro. Et puis, du coup, d'adresser aussi, si votre question s'adresse à une personne particulière, de pouvoir la nommer. Ou si quelqu'un est timide et il y a quand même une question qu'il ne veut pas la poser, vous pouvez la mettre dans le chat et on se fera un plaisir avec Swat de la partager à haute voix. C'est aussi possible.
Bon, moi, je vais briser la glace et je vais lancer une première question. Peut-être ça ouvrira les portes des autres. Donc, ma question, j'ai un peu de la peine à savoir à qui l'adresser. Séverine, quand même. comment on fait pour ralentir face à l'urgence climatique? on a des... Voilà, je m'arrête là.
C'est comme si on était tous dans un immense bateau qui va de plus en plus vite dans la rivière, et puis il y a un rapide un peu plus loin. Donc c'est l'angoisse parce qu'on est tous dans le bateau. On dit arrêtez de ramer, et puis tout le monde continue de ramer avec énergie et joie. Ce qui est intéressant, c'est pour utiliser la métaphore, c'est de savoir qu'il y a des endroits dans les rivières où il y a des turbulences, et puis il suffit que le bateau aille dans certains endroits pour que tout d'un coup, il y a des courants qui remontent même la rivière parfois. Et puis je trouve cette image très jolie de dire, voilà, ça sert à rien de s'exciter, puis de s'énerver, de s'angoisser, de dire arrêtez de ramer. Enfin, il faut bien sûr le dire, mais il peut y avoir tout d'un coup quelque chose qui peut se passer, et les gens peuvent prendre conscience, et on peut tranquillement se dire ah là il y a peut-être un petit courant qui va nous permettre d'accoster tranquillement sur le côté. Il peut y avoir aussi tout d'un coup un arbre qui tombe en travers de la rivière, on ne sait pas. Mais il faut aussi, enfin, on est dans une société où, ben là, c'est peut-être un peu plus bouddhiste, hein, ce que je veux dire. J'ai entre autres grandi en Chine, donc, et en Inde. Donc, on est dans une société où on pense qu'on contrôle ce qui se passe, mais en fait, on est des petits grains de sable, alors c'est important, chaque grain de sable est important, mais on ne contrôle pas vraiment. Il y a des choses qui vont se passer qu'on n'aura absolument pas anticipées, et des choses, ça peut être des choses magnifiques aussi. Donc, il faut aussi faire un peu confiance à la nature. La nature, elle a quand même des ressources hallucinantes. Si on arrive à mêler un peu de fatalisme à notre besoin de contrôler, d'agir, et notre impression que soi-même on pourrait changer la face du monde, ce qui est très anxiogène, parce que si on arrive à faire un bon mix, on se sent mieux.
Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Juliette. Est-ce que tu veux que je la pose moi, ou tu veux prendre la parole? Alors, je la pose moi. Donc, la question de Juliette, c'est comment inviter d'autres personnes de son entourage à se préoccuper de l'urgence climatique et à ceux qui disent que de toute façon, ça ne changera rien. Donc, peut-être, voilà, si quelqu'un est inspiré par cette question, Noémie, Vincent, Swad ou Séverine. Je vois qu'il y a Séverine qui lève le doigt. Ouais.
Je ne veux pas être la seule à parler, mais je suis hyper inspirée par la question. Alors, moi, j'aime énormément la phrase, semble-t-il, d'Einstein, hein, qu'on n'a pas trouvé dans ses écrits, mais il paraît que c'est lui qui l'aurait dit. Il aurait dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc, je trouve que cette phrase-là, elle est tellement parlante, et moi, elle m'a beaucoup mobilisée. Il y a aussi, évidemment, la notion, puisque je suis médecin, la notion de non-assistance à personne en danger, et la notion de qui ne dit rien consent. Bien sûr, ce n'est pas chaque individu qui va changer quelque chose, et bien sûr, ce n'est pas la Suisse toute seule qui va changer la face du monde. N'empêche, la Suisse, elle a une responsabilité colossale, et elle est quand même un modèle pour beaucoup de pays, et chaque individu a un pouvoir. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté, mais on est dans un monde dégénérateur, et les écrans et la passivité dans laquelle on s'installe, on se dit « Ah, ils vont peut-être faire quelque chose », ça n'aide pas, et c'est sûr. Mais c'est des petites phrases comme ça qui peuvent parfois faire un déclic chez certaines personnes.
Et je vois que Vincent a aussi levé la main.
Ouais, je dirais c'est aussi justement en montrant, quand les autres nous voient peut-être partir avec XR sur une action, qu'ils nous demandent quand ça s'est passé, qu'on leur dit qu'on a fini au poste, que c'était pas si terrible, et que ok, genre mon pote a été au poste, mon fils a été au poste, ma mère a été au poste, enfin, ou simplement changer des choses, devenir végétarien. Ça peut ne pas être facile au début, mais montrer que ce qu'on fait, on est en accord avec, et c'est en quelque sorte montrer l'exemple. Enfin, par les actes, on a aussi plus de poids que par les mots. Et c'est pas non plus parce que, enfin, faut pas non plus essayer de convaincre tout son entourage. Il y a cette idée notamment justement des cercles d'influence, qu'il y a certaines personnes, on n'a pas besoin d'elles pour aller au changement. Et on n'arrivera pas à les convaincre, et c'est pas ces personnes-là sur lesquelles il faut s'épuiser à appuyer. Et moi, je le vois dans mon entourage. Par exemple, il y a des gens qui font. Mon oncle, par exemple, qui était totalement outré par ce qu'on faisait, et puis il était venu quand même une fois à une conférence, et puis il était venu pour un peu, pas pour démolir, mais pour montrer qu'il n'était pas d'accord et que ce qu'on disait c'était des bêtises, ce genre de choses. Au bout de plusieurs mois où il m'a vu agir, qu'il voit aussi autour de lui qu'il y a des choses qui se passent et autres, il a changé de boulot, et puis il a changé aussi le parti pour lequel il vote. Enfin, ça paraît des petits trucs, mais c'est déjà des choses qui montrent que même les personnes qui ont l'air très éloignées, à force qu'on leur montre qu'on fonctionne d'une certaine manière, ça les influence aussi. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus.
Merci. Peut-être s'il y a encore une question, une dernière question qu'on va prendre avant de passer à la suite. Et sinon, je laisserai Séverine. Où il y a Noémie aussi qui a levé la main, je pense que c'est lié à cette question. Donc Noémie,
si non, tu c'est veux. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Non, je me demandais justement, quelle était la relation qu'il y avait entre XR et les autorités, la police. Est-ce qu'il y a des cercles de parole où vous invitez des personnes extérieures, est-ce qu'il y a de la réconciliation, des choses comme ça, je balance ça comme ça m'intéresse. Est-ce que c'était clair? Sève, je vois que tu fronces les sourcils. Oui, c'est clair. Oui, ben, voilà, Vincent ou Sève.
À Genève, du coup, on n'a pas été. Enfin, on a les rapports de. Pendant les actions, les rapports avec la police sont plutôt bons. Ça ne veut pas dire que tout. Qu'ils respectent totalement la loi, etc. Mais on n'a pas eu de problème de violence policière sur nos actions. Et la plupart ont quand même l'air plutôt OK avec ce qu'on dit, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on fait. Donc, ça aide aussi. Mais non, y a pas, on n'a pas été, on n'a pas fait encore, en tout cas à Genève, je sais qu'à Lausanne, ils l'ont fait, rencontrer la police et leur faire une présentation en fait, au chef de la police de qui est XR et surtout pourquoi XR et donc tout ce contexte climatique. Et je sais que ça a vachement changé les rapports qu'ils avaient avec la police, ce qui ne veut de nouveau pas dire que tout est beau tout le temps non plus, mais voilà, on a plutôt un... On est plutôt bien vu entre guillemets par la police, même si chaque policier est différent et que ça ne nous empêche pas, ça ne nous protège pas non plus totalement. Et puis voilà. Après, par rapport aux politiques, j'ai remarqué, on a fait déjà quelques débats à Genève avec des élus municipaux et même des gens qui sont de droite. Après le débat, nous remerciaient en disant que c'était très constructif et que ça avait changé leur vision aussi du mouvement. Donc, je pense que c'est aussi par les différentes manières de les rencontrer, d'aller vers eux, discuter tout bêtement, sans forcément créer même tout un cadre de discussion. Après, il y en a aussi qui nous traitent de terroristes, etc. Mais bon, voilà, c'est les règles du jeu. J'ai fini.
J'ai peut-être juste complété pour rappeler qu'en fait, dans les actions d'Extinction Rébellion, en général, il y a donc les personnes qui bloquent la rue ou qui s'attachent entre elles ou qui sont dans l'action directe. Mais tout autour, il y a toute une série de personnes qui font partie d'Extinction Rébellion et qui font le lien avec l'extérieur, que ce soit le lien avec la presse, que ce soit le lien avec le public qui passe et qui comprend juste pas ce qui se passe juste à ce moment-là, parce que les actions ne sont pas annoncées à l'avance, donc de toute façon, c'est la surprise, la rue est bloquée ou le carrefour est bloqué. Et il y a un troisième type de personne qui est le lien avec la police. Et donc, ça permet quand même déjà d'essayer d'atténuer les tensions et d'avoir ce dialogue, même s'il est un peu limité, et bien sûr, c'est de la désobéissance civile, donc ce n'est pas légal ce qui est fait, mais il y a quand même ce dialogue qui se crée. Et effectivement, sur Genève, on a de la chance jusqu'à maintenant. C'était relativement cordial. Voilà, j'ai dit.
Merci. Ben, je propose qu'on passe à la suite, donc, c'est-à-dire à voilà, descendre un peu, laisser de côté la tête et descendre dans le cœur pour un échange deux par deux autour de, ben, toujours de rester dans cette articulation entre ces différents axes et ces stratégies que nous avons vues. Et donc, pour ça, je vais passer la main à Souad.
Voilà, alors, étirez-vous juste 30 secondes, là, parce que quand même, c'était bien intense et bien...